Salut, c'est Sébastien. Vous vous apprêtez à écouter le podcast Un dernier pour la route. Ce podcast est une émission live retransmise sur Fréquence Banane un jeudi sur deux à 21h. Les musiques live qu'on passe durant l'émission doivent être coupées pour des raisons de droits d'auteur sur Spotify. Mais ces musiques, on vous les met en lien dans la description et vous pouvez les retrouver ainsi. Passez une bonne émission.
Et ben voilà, j'arrive sur scène et c'est comme quelqu'un qui fait une fugue en se demandant pourquoi il faudrait rentrer chez soi le soir.
Un dernier pour la route. 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 Bonsoir et bienvenue dans ce premier live du podcast d'une émission qui n'existait pas mais qui vous manquait déjà. J'ai nommé Un dernier pour la route. Un dernier pour la route, c'est votre compte aux soirées dans la cuisine, la dernière clope au petit matin en observant les possibles. C'est des amis, des invités qui partagent des petits bouts de vie et d'expériences qui les ont fait grandir, avancer ou régresser, et qui finalement apprennent à faire face à cette mascarade que l'on appelle la vie. Ce soir, mesdames et messieurs, nous avons à la technique Sébastien, aux questions-réponses Alex et Alex, et la douce voix qui vous parle présentement, c'est Sarah Luna, ou SLM pour les intimes. Pour cette première émission, nous avons décidé d'évoquer le départ. Le départ, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est le fait de partir, de s'en aller. C'est l'exil, l'échappatoire. C'est quitter une chose pour se retrouver dans l'inconnu. En partant, en marquant une fin à notre action, cela annonce toujours le commencement de quelque chose d'autre, de nouveau, d'excitant ou d'apeurant. Et ce soir, on va vous parler des challenges auxquels on peut faire face en tant que jeune quand on ne suit pas le chemin classique vers lequel on a pu être poussé.
Salut tout le monde! Merci d'être là, ça fait plaisir d'être avec vous. Donc avant de parler plus en détail du départ, on va procéder à quelques formalités. Donc pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, on a un invité ce soir, mais qui est aussi un ami de longue date même. Il s'appelle Alexandre Child, ou plus simplement Alex, ou les forains pour les intimes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps et ça pourrait peut-être choquer quelques sensibilités. On se connaît plutôt bien les deux, on a fait toute notre scolarité ensemble, donc ça fait un moment. Donc toute l'adolescence et les vices qui vont avec, les 400 coups quoi. Donc je suis pas sûr que tous les auditeurs qui sont rassemblés ce soir pour notre première te connaissent, donc avant qu'on s'éternise sur quelconque sujet, présente-toi à nous et dis-nous un peu qui tu es.
Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation, Sébastien, Sarah et Alexandre. Alors je m'appelle Alexandre Child et je pense qu'on va parler un peu de ça. J'ai commencé le cinéma, la réalisation et l'écriture de courts-métrages et d'équipes vidéo durant la fin de mon collège quand j'avais 17 ans. Et puis je me suis lancé en autodidacte sans formation pour essayer de suivre mon rêve et essayer de créer des choses qui me tenaient à cœur. Donc voilà, depuis 3 ans, j'ai fait plusieurs courts-métrages et plusieurs clips. Et puis voilà. Voilà pour la présentation.
Ok, donc tu dis que tu as commencé à 17 ans. Et donc à ce moment, quand tu as 17 ans, c'est à quel moment que tu t'es dit que tu voulais réaliser des films et que tu as eu ce déclic justement? Est-ce que tu as eu un moment spécial qui t'a vraiment donné envie de faire, ou ça faisait depuis un moment que tu avais envie de commencer cette aventure?
Bah, c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent et puis auquel je reviens. Je pense que c'est quelque chose qui me plaisait depuis toujours, depuis l'âge de 10-11 ans, quand on était au cycle. Et c'est vrai que dans mon agenda de l'école, il y avait beaucoup de sorties de films le mercredi qui m'influençaient. Puis après, bah forcément, à cet âge-là, c'est un peu compliqué de mettre les choses en avant, de réunir des gens, de dire ce que tu penses, de transformer ça en concret. Et puis les mois passent, les années passent, et puis quand j'ai commencé le collège, ben je choisis toujours cette période, enfin ce moment-là, le 8 octobre 2014, où j'ai vu Mommy de Xavier Dolan au cinéma. Et je pense que c'est à ce moment-là concrètement que je me suis dit ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis après, sans être bateau, je pense que c'est quelque chose qui est tellement nécessaire, et je me suis jamais posé la question de pourquoi je ferais ça ou est-ce que je dois faire ça. C'est venu à tâtons, c'est venu sur le moment, et puis dès que je l'ai fait, bah, c'est ce qui m'a plu, donc je me suis pas posé plus de questions que ça et j'ai essayé de foncer à ma manière.
Ok, et aussi tu m'as parlé d'un autre film, donc on a parlé de beaucoup de films ensemble, on a vu pas mal de films en salle ensemble, mais aussi Drive que t'as beaucoup aimé. Est-ce que ce film était autant marqué que le film que t'as cité de Xavier Dolan justement? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce film?
Ah ouais, je pourrais dire tout autant. C'est vrai que je l'ai pas cité là parce que j'ai pas envie non plus de citer tous les films qui m'ont plu, mais c'est vrai que ça fait partie aussi d'un des films. Bah, il est sorti en 2011 quand on était en début du cycle, mais c'est juste que j'avais vu ce film plus, enfin c'est un des premiers films vraiment qui m'a aussi orienté vers le cinéma, mais j'avais tellement admiré l'interprétation de Ryan Gosling que je voulais devenir acteur à ce moment-là. Et enfin, je sais pas, j'ai eu un élan de...
C'est vrai que c'est un beau gosse.
C'est vrai que c'est un beau gosse et qu'il a quelque chose d'hyper énigmatique. Enfin, ouais. Voilà, je pense qu'il m'a beaucoup influencé sur l'écriture par rapport à mes personnages solitaires, etc. Bon, mais en fait, je pense que c'était un des premiers déclics dans le cinéma, mais pas dans la réalisation ni dans l'écriture, plus dans...
Dans la performance du jeu,
plus
en fait.
Plus dans la performance, après j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. trop
mais
mal.
T'as essayé de faire des cours de théâtre ou
non, du tout. Vraiment, je pense que c'est... Hein,
on a voulu en faire.
On a voulu en faire, mais on veut toujours en faire. Même pour l'aisance devant les gens. Non, c'est quelque chose d'hyper important.
C'est vrai.
Mais il en fait tous les jours à sa manière.
Je suis en train d'excuser, mais oui, c'est vrai que c'est vraiment qu'on devait en faire, mais ça a jamais commencé... Je sais pas si c'est mieux comme ça, mais ce serait bien d'essayer un jour, pourquoi pas.
Mais Drive m'accompagne tous les jours sur la musique, sur la mise en scène, mais juste qu'au moment où j'ai découvert, c'était plus sur la performance que sur la réalisation.
Ok, bah donc aujourd'hui on avait comme idée directrice, on voulait parler du départ, et souvent il y a une partie des gens qui conçoit le départ comme une fin en fait. Et en l'occurrence pour toi, tu penses que ce déclic justement de cinéma, ça constitue le premier départ de ta vie en fait, de ta vie active justement, comment
ta
tu conçois ta vie d'adulte plutôt.
La vie sérieuse.
La vie active, ouais.
C'est sérieux pour les gens de faire des films, je sais pas.
Exactement. C'est vraiment un premier mouvement dans ta vie, vraiment. Alors, est-ce que tu considères ça comme le premier
mouvement? Le premier, non, parce que j'ai fait des rencontres comme la tienne ou comme avec d'autres gens qui étaient aussi importantes que ça. Mais c'est vrai que je pense qu'à cet âge-là et à l'âge même dans lequel on est maintenant, on se cherche tous encore. Enfin, c'est un peu ça la beauté de la jeunesse. J'ai écouté un interview de Bacri qui disait que justement il revendiquait la beauté aussi d'avoir 50 ans et d'avoir toutes ces inquiétudes derrière soi et de pouvoir profiter vraiment de l'instant présent. Je pense que nous on a un âge où c'est une des plus grosses préoccupations, donc j'ai oublié ce que je voulais dire.
Non, c'est juste pour savoir si le justement
si
ce déclic,
premier
un vrai départ,
départ,
pas physique franchement.
Non,
pas
voilà,
forcément
oui,
un départ physique,
je me suis perdu, mais en fait oui, c'était pour revenir à ça. Et je pense qu'on se demande tous qui on est, ce qu'on doit faire, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup réconforté d'avoir cette impression, en tout cas, ou cette intuition, de savoir que c'était ça ce que je voulais faire. Donc oui, pour moi, c'est un des premiers vrais déclics dans ma vie, en dehors des amis ou des gens que j'ai rencontrés, qui m'aient réconforté dans le sens de « bah tu vis et t'essayes de faire ça, et donc il y a un sens derrière ».
J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit là, parce que tu parlais d'avoir 50 ans et d'avoir toutes ces inquiétudes derrière soi. J'en profite aussi parce que je peux parler, j'avais oublié d'allumer mon micro avant. Sarah Luna m'a gentiment fait remarquer qu'on m'entendait pas trop. voilà, donc maintenant je suis là.
Salut,
Sam. Vous.
Salut. Bonsoir, Sam.
Ça va? Bonsoir, Sam. Merci d'être avec nous.
Putain, la technique, c'est compliqué la première fois. Non, mais pour revenir sur ces questions-là, parce qu'on est à un âge où on a tellement d'inquiétudes, de questionnements qui se posent. Et je pense qu'à 18 ans, toi, tu as terminé le collège à 18 ans, c'est ça?
Ouais. Exact.
J'imagine qu'il y a encore plus d'inquiétudes quant au futur et en fait, tu as plein de potes.
Dans l'inconnu aussi.
Ouais, c'est ça. Et aussi de trancher avec la suite logique de ce que tes potes font, de ce que tes parents ont fait peut-être, de ce que tes parents attendent de toi que tu fasses. Et c'est quelle sorte d'inquiétude de ne pas faire commencer les études, de se dire... Tiens, je vais prendre une année en tout cas, voire plus, pour faire ma... Fin...
Pour réaliser ton rêve, en fait.
Ouais, bah c'est vrai que sur le papier, ça peut être un peu effrayant. Parce que, ouais, je pense qu'on a tous un peu une facilité, mais on est face à un cycle qu'on est un peu censé continuer. Voilà, si on a fait le collège, bah c'est l'université, ouais, etc. Mais pour être vraiment honnête, j'ai jamais eu beaucoup de craintes parce que j'ai toujours des gens dans ma famille, dans mes amis... Et moi-même, j'ai toujours eu confiance dans ce que je faisais. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que... Je pense que si tu te poses trop de questions à l'instant où tu le fais, c'est vrai que ça peut être hyper effrayant et que tu puisses, je sais pas, ne pas oser. Et donc, j'ai l'impression que le fait d'avoir osé, c'est peut-être aussi parce que j'avais une entière confiance avec les gens qui m'accompagnaient et avec le fait que, comme je disais, ça peut paraître hyper bateau de dire ça, mais c'était vraiment une nécessité. Et en fait, je me suis jamais posé la question de me dire « Ah, mais... » Je pourrais choisir une voie plus simple, parce que oui, évidemment, je pourrais choisir une voie plus simple, mais en même temps, tous les autres domaines, je ferais aucun autre domaine en étant autant appliqué que ce que je ferais, enfin, que ce que je fais en faisant du ciné. Donc c'est pour ça que, j'ai jamais eu vraiment d'inquiétude, même si, ça peut paraître voilà plus effrayant de pas avoir une routine habituelle du lundi au vendredi, pas avoir voilà quand tu finis l'université, bah t'as des stages, voilà t'enchaînes avec un emploi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus effrayant, mais vu que j'ai toujours eu l'accompagnement des gens et une petite confiance, voilà, je me suis dit que ça le ferait.
Donc le cinéma c'est pas quelque chose que tu pourrais faire tout seul, alors donc tu seras toujours forcément accompagné de personnes, c'est pas quelque chose que tu peux faire en solo finalement.
Non, bah moi je le vois vraiment comme un, en plus c'est vraiment un art extrêmement total, enfin où tu rencontres plein d'artistes, et c'est vraiment des étapes qui me passionnent, de pouvoir échanger avec des gens sur le tournage, en pré-production, en post-production, enfin tu rencontres des dizaines de personnes et puis t'échanges avec chacun. Donc ça c'est dans le domaine professionnel, mais même à côté, comme je disais avant, j'ai des gens qui m'entourent et je pense que c'est grâce à eux et grâce aux professionnels avec qui je travaille ou amis ou compagnons, voilà, qui réussissent à faire ce que je peux.
On va parler un peu des deux courts-métrages que tu as déjà sortis. Bon, là, il y a un troisième qui était censé sortir cet été, mais il a pas pu sortir à cause de la pandémie. Donc je vais pas spoiler la Covid, exactement.
On dit le Covid.
La Covid.
Non, je refuse qu'on
on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc je vais pas spoiler celui qui n'est pas encore sorti, mais donc on va parler des deux premiers qui sont sortis respectivement en 2017 et 2018. Et donc il y a des thèmes qui sont récurrents dans les deux premiers films qui sont notamment l'amour et la recherche de soi à l'adolescence. Et donc vu qu'aujourd'hui on voulait parler du départ, je voulais te demander, est-ce que tu penses que ces deux thèmes sont des éléments qui sont définis et qui sont acquis au début de l'adolescence, ou justement tu penses qu'on revient au départ après chaque rupture amoureuse, ou qu'on se remet en question même à 40 ans?
Bah bon, c'est une question qui est hyper intéressante, mais dont j'ai pas assez vécu, je pense, pour pouvoir y répondre pleinement. C'est pour ça que j'ai l'impression de toujours parler de notre génération, parce que ça me paraît très bizarre de mettre un protagoniste de 40 ans. Mais bref, j'ai pas répondu à la question. Non, je pense que, je trouve que le départ évoque beaucoup le cycle. Enfin, le cycle, le fait de renouveler les choses, comme Sarah Lona faisait son introduction, c'est vrai que ça peut paraître une fin, comme une fin, mais plus aussi comme un commencement d'autre chose. Et donc, j'ai l'impression que l'amour est comme la quête de soi. Bon, c'est deux choses différentes, mais, que c'est en perpétuel.
Ça marche en quinconce aussi. Tu peux te rechercher dans tes relations. Et puis amoureux, c'est peut-être un peu plus large aussi. Ça peut être amical.
Ouais, c'est hyper dur parce que c'est vrai qu'on parle d'amour amoureux,
oui, voilà,
par rapport à une relation.
L'amour amical et l'amour amoureux.
Mais l'amour que t'as fera à ta famille, à tes parents, à tes potes, à tes animaux, enfin tout ça, pour moi, c'est le même amour, sauf que il se.
Il
se matérialise différemment, je pense qu'il prend une forme un peu différente forcément, mais donc je pense que continuellement chacun a son train de vie, chacun a son chemin de vie, et je pense que tu peux apprendre des choses plus tôt que certaines personnes et d'autres personnes qui les apprennent plus tard, ou inversement, puis tu découvres des choses, enfin c'est ça la beauté de la vie, je pense, c'est de grandir perpétuellement, et si on le faisait pas, autant ne pas vivre, malheureusement. Le cynique.
Ok,
mais par rapport à cette idée aussi, là, on parle beaucoup du départ en tant qu'un départ peut-être temporel, genre de vie presque. J'aimerais aussi parler du départ de partir quelque part d'autre.
Géographiquement, tu dis ?
Géographiquement, c'est-à-dire. Sarah Lona, toi, t'as fait un petit départ, je sais pas.
Oui.
Genre, ça a été comment de bouger simplement à Saint-Gall ? Tu me dirais que c'est pas
si loin. Ouais, c'est pas très loin.
Mais culturellement, je crois que t'as un gouffre quand même.
Écoute, c'est pas comme si j'avais déménagé, je sais pas, en Inde ou comme ça. Alors oui, il y a une forme de départ. Je pense qu'il y a aussi un truc très... que je pense que toi et moi, on va vivre récemment, enfin prochainement, parce qu'on part en échange si tout se passe bien, et qu'on va aller aux États-Unis, et que du coup, là, il y a vraiment, vraiment cette différence culturelle qui sera beaucoup plus marquée que Saint-Gall-Genève. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune quand je suis partie à Saint-Gall, et que il y avait ce truc de « Ok, je pars, je vais habiter seule, enfin en coloc, sans mes parents, je vais devoir gérer des trucs peut-être un peu plus d'adultes. » Et du coup, c'est pas... Je sais pas, c'est difficile, j'arriverai pas à dire comment je me suis ressentie. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation. Moi, j'ai pas vraiment été triste. J'étais juste super excitée de pouvoir faire mes expériences ailleurs et vivre d'autres choses. Et je pense que c'est la même chose pour le départ aux États-Unis. C'est, je suis trop excitée de le vivre et j'ai pas trop de. Ouais, je me sens pas mal de quitter tout ce qui se passe ici, parce que c'est toujours des choses que tu te dis que tu peux retrouver de toute façon. Donc et puis je pense que, mais ça, Alex, peut-être qu'on peut faire le parallèle, dans le sens où moi, je suis partie de Genève Voilà, mais et du coup, évidemment, ça fait un tri aussi dans ton entourage. Et je pense que toi aussi, si tu choisis de poursuivre ta passion, est-ce que tu vois aussi les gens qui sont prêts à te soutenir et à rester là tout au long du chemin pour toi, et ceux qui, du coup, de par aussi leur chemin de vie, s'écartent, et ce qui est une session qui se fait, quoi.
Bien sûr, mais c'est hyper intéressant qu'on parle de ça, parce que j'en ai parlé récemment avec ma mère, justement, par rapport au cercle aussi de la vie auquel les gens traversent, enfin des rencontres, etc. Et puis tout va assez vite, mais évidemment que genre tout le monde ne doit pas être derrière moi à me suivre, etc. Enfin genre chacun a son mode de vie. Je pense que Seb parlait du départ géographique. Moi c'est quelque chose dont j'ai de la peine à partir de l'endroit où j'ai
vécu. Ouais. Pourquoi?
Parce que je saurais pas te dire, mais depuis tout petit, enfin c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi de partir de chez moi. Rien à voir avec du nationalisme ou quoi que ce soit. Je m'en fous d'être en Suisse ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois, c'est juste l'endroit où j'ai vécu. Où...
Mais tu parles vraiment de ta maison avec ta famille ou
avec mes amis, avec mon cinéma d'escalade, avec des bars. Enfin, je suis hyper routiné par rapport à ça, mais en même temps, j'ai l'impression de voyager grâce au film, grâce à découvrir d'autres cultures. Enfin, c'est vrai que quand on a 20 ans, les gens te reprochent un peu de pas partir. Enfin, pas te reprochent pas, mais disent t'as 20 ans.
Si, je suis d'accord.
Oui, et moi, c'est quelque chose.
C'est vrai que c'est un peu une étape obligatoire quoi, de devoir voyager à travers le monde.
Évidemment, j'ai pas. Et je dis pas faut pas voyager du tout, je dis juste faut voyager
si t'en as envie, je trouve. Mais il y a une pression sur nous. Moi, je me souviens avec Seb, il y a un prof qu'on adorait au collège, monsieur Moncada, gros big up. Mais moi, il m'a dit.
On l'aura dans cette émission.
J'espère.
Monsieur Moncada, si vous nous écoutez.
Oh, franchement, mais venez. Non, mais il m'a dit un jour, mais si t'as l'occasion de partir, pars. Genre, vraiment, pars et tout. Et du coup, je me suis un peu foutu la pression. Je l'aimais trop. Je me suis dit, ok, il me dit de partir, bah ok, je vais à Saint-Gall, wouh. Mais donc, ouais, je comprends aussi ce truc de, en fait, non, je reste. Et je peux faire des belles choses ici. Moi,
bah ouais, non, après, et vraiment, genre, je dis pas, faut pas voyager du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est vraiment, genre, chacun fait, je pense que c'est la liberté, à chacun de décider. Et puis moi, j'ai l'impression d'avoir voyagé et j'aimerais dire à chacun, regardez tel film et ça vous fera du bien. Mais en même temps, je vais pas imposer aux gens ça. Et tu vois,
parce que les films te font voyager.
Mais il y a aussi une notion de voyage. C'est génial que t'en parles. Les films, enfin, il y a plusieurs sortes de départs. Là, on a parlé du géographique, du temporel et tout. Mais il y a le départ de s'asseoir dans une salle de cinéma, d'avoir un écran noir et puis un film qui se lance. C'est assez génial comme voyage.
C'est un très très beau voyage qui me manque beaucoup d'ailleurs.
Ouais, moi aussi.
Non, mais on en parlait
tous, je pense.
Ouais. On en parlait avec Alex avant justement et on disait par rapport à la rapidité dans laquelle on évolue, par rapport à Spotify, par rapport à Netflix, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que le cinéma, enfin comme le vinyle un peu, j'ai l'impression qu'on concentre les gens et puis il se dit ben tu fermes ta gueule pendant un certain temps et t'écoutes et moi ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression que l'expérience que j'ai chez moi de regarder un film sera toujours moindre par rapport à ce que je vivrai en salle.
C'est
et puis t'as une démarche,
dire,
si tu vas au cinéma,
c'est-à-dire
qu'il n'y a plus le verbe aller.
C'est l'expérience, je trouve, du cinéma. Bah, en ce moment, c'est le festival, c'est le FIFDH, du coup, Festival et Forum sur les films, Film Festival, Forum, Droits Humains, tout ça, ça me va tout dedans. Et moi, je le fais chaque année depuis 2017, du coup, ça fait 4 ans. Et vraiment, là, ça fait 2 ans que c'est en ligne et c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas le même sentiment quand je vais voir des films sur, notamment sur les droits humains. Donc, ça génère beaucoup d'émotions en général chez les gens s'ils sont pas un peu chelous. Et c'est sûr que de vivre l'émotion dans une salle où tout le monde, où il y a une synergie vraiment, où tout le monde va pleurer en même temps parce que la scène est atroce, ou alors tout le monde va rire en même temps parce qu'il y a un moment d'humour, bah, c'est sûr que c'est une autre expérience que quand tu regardes le film à la demande, qui est disponible d'ailleurs sur le site du FIFDH, mais dans mon lit toute seule chez moi, quoi. C'est pas la même chose et tu partages ces émotions avec des inconnus aussi. Et c'est ça qui est super beau, je trouve, avec le cinéma.
Ouais, alors là, on est un peu dans les phases de vieux réac, mais c'est vrai que genre par rapport au cinéma, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de contenu. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça sur Netflix. Maintenant, on va vous livrer des nouveaux contenus. Et en fait, t'as pas la scission entre la vie de tous les jours, ton quotidien, j'ai l'impression, et puis le film que tu vas regarder, parce que tu regardes ça, comme tu disais, dans ton lit, sur ton ordi.
Tu vis pas une expérience comme celle que
ça.
Tu pourrais quand tu payes ta place. Et
tu
vraiment
te prépares pas justement à partir au départ et à rentrer dans quelque chose d'autre. Moi, enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai quand je regarde des films sur mon ordi. Ah, c'est mieux quand je parle près du micro. Putain, incroyable de faire ça. Mais j'aime bien vous regarder aussi, et puis j'ai de la peine à vous regarder. Et quand t'es dans ton lit comme ça, avec ton ordi sur les, je sais pas, sur les jambes, tu pars pas vraiment dans un autre monde. Je pense que t'as pas de...
T'as plus de peine à voyager, ouais.
c'était pas dans un bon état d'esprit. C'est aussi l'idée qu'ils font un état d'esprit particulier, je pense, pour être prêt à partir et pour profiter de ton voyage aussi.
Mais je pense que le fait d'être avec d'autres gens aussi, ça conforte ton idée. Parce que, enfin, il y a beaucoup de films que j'ai regardé à la maison où j'ai été touché, mais j'ai l'impression que quand t'es dans une salle, forcément, t'as.
C'est décuplé.
Après, forcément, tout le monde n'est pas du même avis que toi en regardant un film, mais t'as quand même ce sentiment. T'as ce sentiment de groupe et qui te donne encore plus d'émotions, je trouve. Et c'est des gens qui partagent ton avis, finalement, et c'est encore plus touchant, je trouve, pour un film. Comme un concert, finalement, quand t'es...
Quand
t'es en festival, tu te retrouves avec des gens
que tu connais pas, mais
qui viennent vraiment des quatre coins du monde et ils chantent les mêmes paroles. Enfin, tout le monde est sur les mêmes bases. C'est ça qui est assez touchant aussi. C'est de la poésie.
Mais non, mais bon, pour continuer en ligne... Enfin, Godard est très... que j'ai dit ça, mais je pense que le cinéma, c'est quand même un art, comme je disais, humain et global avant tout.
Est-ce que c'est un art populaire?
Hein? Parce que c'est un art populaire.
Est-ce que c'est un art populaire? Est-ce que...
Oui.
Si tu dirais que Godard te détesterait.
Non, mais parce que Godard, enfin, je sais pas, il y a sûrement qui dirait qu'il a à foutre de montrer ses films.
C'est
puis,
bon, c'est dit.
Puis moi, c'est vrai que j'ai réalisé, enfin, ce court-métrage l'été dernier, et j'ai toujours pas pu le montrer aux gens avec qui j'ai fait, et c'est quelque chose qui est hyper dur. Enfin, pour moi, l'aboutissement, c'est pouvoir le partager avec des gens et pouvoir, au bout d'un moment, tu sais plus ce que vaut le film, donc t'as besoin d'avoir un retour par rapport à ça. Donc je pense que l'expérience, et je pense aussi le fait de, quand tu vas en salle, bah tu payes ton ticket, mais du coup t'as une recherche en amont, tu vas lire un synopsis, tu vas regarder une bande annonce, tu vas regarder l'affiche, tu vas te documenter dessus. Et je pense que quand t'as tout à disposition comme on aurait sur ces plateformes là, bah c'est vrai que la recherche et que l'implication dedans n'est pas la même. Mais c'est une critique envers toute notre génération, enfin toute notre époque, quoi, sur Insta, sur la musique, sur tout ça, pas qu'au cinéma, quoi. Donc voilà.
Est-ce qu'on mettrait pas une petite musique, parce qu'on arrive en milieu d'émission?
Mettons une musique.
Et il faut qu'on les mette quand même. C'est
on va se détendre un peu.
Donc si vous étiez là au début de l'émission, vous avez remarqué qu'on a eu quelques cafouillages et qu'elles sont parties avant, mais on va les remettre parce qu'elles sont magnifiques.
Moi je pense qu'on peut passer à Beach House.
Beach House.
Yeah. Beach House.
Ou tu veux faire Kid Cudi?
La sélection d'Alexandre.
Tu préfères Beach House ou Kid Cudi? Laquelle j'annonce?
Annonce, allez, Beach House.
Ah.
Attends.
Alors, on va écouter une chanson de Beach House qui s'appelle Myth et que Alex et Alex ont choisi parce que ça faisait penser à Alex, un petit départ sur la lune. c'est plaisir.
Donc on est reparti, on est toujours là. C'est une petite interlude musicale.
J'espère que vous aussi.
On est tous ensemble, donc on est toujours avec Alexandre et on va continuer de parler un peu de cinéma. Donc je voulais te demander, est-ce que tu penses que le cinéma, enfin dès que tu as commencé à faire du cinéma, est-ce que ça t'a changé en tant que personne? Est-ce que tu sens qu'il y a...
Un avant-après,
exactement. Before, after.
Un avant-après...
Perso, je fais une parenthèse, mais on parlait du départ et de Saint-Gall, machin. Moi, je sens totalement l'avant-après Saint-Gall. Genre, vraiment, un truc de fou. Du coup, peut-être que dans tes expériences, et tu vois ce truc de... ton premier film, tu l'as sorti en 2017, c'est
exact,
ça?
Ouais.
On est en 2021, donc ça fait quand même, tu vois, 4 ans où tu peux évoluer et tout ça.
Ouais, non, alors justement, je pense que... Enfin, je pense que je me suis... peut-être que je suis trop jeune pour dire ça, mais je pense que je me suis un peu découvert grâce à ça. Et puis, ça m'a aidé à avancer... d'avoir ça en tête, donc évidemment que ça m'a beaucoup changé. Après voilà, comme j'ai dit, je l'ai fait de manière spontanée. Je pense qu'au moment où je l'ai fait, je me suis dit ça va changer. Mais enfin, si je me replonge avant d'avoir fait ça, évidemment que je suis quelqu'un de différent et quelqu'un qui je pense, enfin espère avoir trouvé sa voie. Donc évidemment que ça m'a changé.
Ok. Et est-ce que tu vois aussi une évolution? Enfin, je pense bien technique, t'as une évolution technique parce que t'as...
De l'argent.
De l'argent, oui, exactement, ça aide pour faire des films, bien sûr. Mais est-ce que tu vois une évolution au niveau de l'écriture aussi, au niveau de...
La réalisation,
enfin du cœur aussi, enfin ça vient du cœur finalement. Est-ce que tu vois qu'il y a... En 4 ans, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui a changé.
Bien sûr, j'espère en plus que ça a changé. Je pense que le cœur, il est toujours de la même manière de quand j'ai commencé. Évidemment, je pense que ça a pas changé. Après, l'écriture, surtout que moi, je venais beaucoup plus d'une base esthétique et visuelle. C'est vrai que je me suis un peu plongé dans le cinéma par attrait de... C'est vrai que je venais un peu aussi de la... Enfin, je venais pas du tout, mais j'avais des influences très photographiques et tout ça. Donc, je pense que mes premiers scénarios étaient pas très, très bien écrits. étaient plus, plus visuels et je pense que c'est ça qui a... Enfin, c'était un peu la force de ça, bref. Mais du coup, je pense que sur le point de vue de l'écriture, j'ai beaucoup évolué. Et puis, comme j'ai dit, au niveau du cœur, non, je pense que c'est la même chose. Après, j'ai rencontré des gens comme Cyril Metzger ou d'autres acteurs qui m'ont donné aussi l'envie du texte et du dialogue. Et puis, grâce à mon expérience de l'été dernier, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau de vouloir expérimenter... avec des comédiens, de parler de personnages comme d'êtres humains, de voir une évolution dans le récit. C'est vrai que c'est des questions que je me posais pas, pour être honnête, pas beaucoup au départ, et puis qui maintenant sont un peu l'essence même de ce que j'écris. Enfin, j'espère de pouvoir parler de personnes, de questionnements et d'interagir avec des gens qui sont plus dans le domaine du jeu et des dialogues et compagnie.
Donc, tu fais peut-être plus attention aux acteurs que tu choisis maintenant?
Pas plus, oui, enfin,
peut-être plus attentif.
Ouais, moi c'était une partie qui était incroyable, enfin, le casting, de pouvoir choisir trois comédiens et une comédienne qui épouseront, enfin, au mieux de ce que t'espères, les personnages que t'as écrits sur le papier. Et puis après, le travail en amont, de pouvoir répéter avec les gens, de pouvoir, de voir des gens juste qui parlent, enfin, qui disent des lignes que t'as écrites, dans ton lit ou chez toi tout seul. C'est quelque chose d'hyper satisfaisant et quelque chose que comme je dis quand je parlais de Thierry ou de Xam et même de William, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté à ce niveau-là et qui m'ont vraiment vraiment envie de donner, parce que en influence, quand je compare par rapport à Drive, c'est vrai que c'était un film hyper muet et je m'étais trop mis dans cette ambiance-là. Je me disais, on va faire des très beaux plans, personne va parler, ça va être génial. Et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression que plus je me rapproche de l'humain, plus c'est ce que j'ai envie de raconter.
T'as envie de les faire parler maintenant?
J'ai envie de les faire parler, j'ai envie de les faire pleurer, j'ai envie
et
de
jouer.
Les faire... Hein? Jouer?
Avec sa gueule, faut qu'il joue. Que ça crie.
Ouais. Il faut qu'il joue, faut qu'il jouisse, ouais, faut qu'il pleure, faut qu'il fasse tout en même temps. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et je pense que c'est là où tu disais par rapport au cœur, je disais que ça changeait pas, mais puisque ça change, peut-être que je me rapproche plus de qui je suis. Donc, c'est hyper là.
Mais du coup, quand le film?
Le film est prêt.
Mais parce que là, c'est encore un court métrage.
Ouais, c'est un peu ça le problème.
Mais tu veux continuer à faire que des courts métrages ou tu veux danser dans des projets longs?
Non, des projets longs. Après, j'ai pas envie de. Il y a plein de réalisateurs qui font ça à merveille. C'est pas se dire, ouais, le court métrage te lance sur le long métrage. Évidemment que ça te lance parce que c'est un plus petit format, là, l'argent n'est pas le même, etc. Mais au moment où j'aurais fait un long métrage, j'aimerais bien refaire chaque histoire a son médium, sa temporalité, enfin, son histoire qui doit être racontée en 10 ou une heure et demie, enfin, 10 minutes ou une heure, enfin, voilà, quoi. J'ai pas envie de me dire, bon, j'ai fait un court métrage, maintenant je passe au long et puis je reviendrai plus jamais au court métrage.
Okay.
C'est juste de pouvoir, mais évidemment que j'ai envie de faire un long métrage, mais c'est juste que quand t'es jeune et quand, t'as pas encore l'expérience, faut essayer de faire ces preuves.
Et puis faut trouver les moyens aussi de
l'argent,
de les faire, quoi.
C'est aussi un grand problème. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça se fait dans ces étapes-là, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui revendiquent le fait de revenir au court-métrage à un certain moment de leur carrière, et je trouve ça super beau. Comme les EP et les albums en musique.
Ah, les EP.
Et du coup, avant, on évoquait le départ, et donc, dans les deux premiers films que t'as fait, donc il y a on voit quand même qu'il y a une certaine esthétique et des thèmes qui reviennent. Et donc, toi, est-ce que tu serais prêt pour un nouveau départ, en fait, complètement changer de style? Parce qu'il y a des réalisateurs qui ont une certaine signature qu'on peut reconnaître quand même quand on voit leurs films. Et à un moment ou à un autre, ils décident de changer de registre. Et des fois, ça étonne. Et même parfois,
ça étonne
et ça énerve même les spectateurs. Donc pour toi, tu penses qu'un réalisateur doit garder sa... Enfin, qu'est-ce qu'est la fidélité d'un réalisateur à lui-même?
Est-ce que tu parleras toujours d'amour et de recherche de soi?
Est-ce que tu devrais changer, tu penses... Est-ce qu'il y a un risque là-dedans aussi, quand même?
C'est une question que je me pose souvent, en fait. Parce que même les références populaires, enfin musicales et compagnie qu'on pourrait avoir, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un charme à retrouver à la personne dans laquelle t'as mis beaucoup d'espoir ou beaucoup d'amour. Enfin, quand t'écoutes un artiste, quand tu regardes un film. Et puis... j'ai l'impression quand ça tourne en rond, on parlait, enfin, avant de venir, de Wes Anderson ou des réalisateurs comme ça qui se reconnaissent, enfin, qui sont hyper uniques, et grâce à leur mise en scène, on reconnaît directement leur travail, on se dit, Il y a des trucs qu'on peut se dire, soit genre ouais bon ben est-ce qu'il pourrait pas changer, passer à autre chose, et puis en même temps on se dit mais pourquoi on l'aime pour ça, tu vois. Donc comme Terrence, enfin je pourrais en citer plein. Après c'est vrai qu'on dit enfin Gus Van Sant, des gens aussi qui sont beaucoup plus éclectiques ou qui font vraiment des choses un peu hétérogènes, et je trouve ça hyper intéressant. Mais en fait j'ai pas du tout la réponse à cette question, parce que moi je suis quelqu'un d'hyper nostalgique, un peu mélancolique, non le bon sens du terme, mais c'est vrai que j'aime bien retrouver quelque chose que... Peut-être aussi mon confort de fait de pas partir. Non, j'aime bien retrouver quelque chose qui m'ait plu. Après, évidemment, il ne faut pas que ça tourne en rond non plus, mais je trouve qu'une la force d'un artiste, c'est être qui il est. Et puis, bah, s'il change à travers sa vie, que ses œuvres changent, et s'il est toujours le même.
Bah, comme toutes les stars Disney, en vrai.
Ouais.
Je sais pas, Miley Cyrus, depuis Anna Montana, elle a fait du chemin. Hein.
Ouais, bah ouais.
C'est vrai que ça.
Et Christophe Maé, c'est le même. Non, mais quand encore malade,
c'est fidèle à lui. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes, finalement.
Qui évoluent pas trop, mais au final, tu retrouves ce qui t'a plu à la première écoute, et je trouve ça aussi intéressant. Mais j'aime bien aussi qu'on détonne, qu'on change les acquis et qu'on parte en terrain inconnu.
Oui, puis vu que bah justement ça revient à la question qu'on t'a posée avant, de juste en 4 ans tu évolues et du coup les 4 prochaines années pareil, et puis voilà un jour t'auras 50 ans et à la sagesse de l'âge et tu feras peut-être d'autres films différents, quoi.
Ouais, je trouve, enfin c'est aussi une
t'auras envie de montrer peut-être d'autres choses.
Clairement, je pense qu'on peut se dire ah, mais il a 20 ans, il parle d'amour, qu'est-ce qu'il est naïf et compagnie, évidemment. En même temps, si je le ferais dans 5 ans, enfin si je faisais un film dans 5 ans, ça serait pas du tout le même propos, et je trouve ça intéressant qu'on marque nos vies grâce à ça. Ouais, et que tu vois, il y ait une balise qui te suive et ce soit ce que tu as envie de dire à l'époque à laquelle tu l'as dit, et puis évidemment, tu pourrais mieux faire dans 3 ans, mais c'est pas le but. Le but, c'est le faire quand tu y penses.
Il y a plus d'authenticité après aussi.
Bah ouais, je pense que oui, toute la question est là-dedans, c'est savoir à quel moment l'artiste est lui-même, et s'il veut changer, tant mieux, s'il veut pas changer, tant pis.
Alors, on arrive sur la fin de cette émission, mais évidemment, j'avais une petite idée pour terminer, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Je voulais vous demander de nous parler d'un petit kiff que vous avez eu récemment. Donc ça peut être n'importe quoi, vraiment, un livre, un film, une recommandation culturelle, des podcasts, la dernière soirée en boîte qui vous a plu.
C'est longtemps ça.
Ouais, non, je rigole. Mal, ouais. C'était pour nous piquer le cœur un petit peu. Mais donc voilà, je voulais qu'on partage un petit quelque chose qui nous a plu récemment et qui pourrait peut-être être une recommandation pour nos auditeurs. J'adore parler de ce genre de choses.
Moi j'ai quelque chose,
ah,
parce que
oui.
J'ai fait mes devoirs et j'ai préparé.
Yes, trop bien. J'ai failli pas vous prévenir en plus. Hein.
Ouais, mais t'as bien fait de prévenir. Comme ça, je peux commencer et ça laisse du temps aux autres.
Plus pour de faire ça, c'est la
même. Nous, on aurait eu un sale blanc là, ça aurait fait chier. Non, écoutez, moi j'ai relu en fait, pas très récemment, mais il y a un mois et demi maintenant, Voyage au bout de la nuit de Céline, qui est une des œuvres qui m'a pas mal marqué au niveau de ma morale personnelle, de ma personne, quoi. et bon, auteur problématique, on n'en parlera pas, mais œuvre assez géniale que je conseille à tout le monde de découvrir, parce que c'est pas tout à fait de la littérature écrite, c'est un truc qui en fait qui moi m'a fasciné, parce que c'est une écriture très parlée, c'est-à-dire que on peut l'entendre parler ou vous pouvez parler en lisant, et il y a quelque chose de très oral et très populaire en fait. Justement, on parlait du fait de toucher de manière large et universelle, donc de faire des œuvres pas trop cryptiques, genre au contraire de Godard. et je trouve que voilà, ouais, je sais pas, il y a un peu une dent comme ça, mais non, vraiment, Céline, Voyage au bout de la nuit, hein, une œuvre à découvrir. Et j'ai prévu la première phrase de Céline, enfin la premier paragraphe de Céline qui ouvre le livre et qui est absolument magnifique.
Ah, mais t'es carrément préparé, hein.
Ouais, je voulais. Voyager, c'est bien utile. Ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux.
C'est beau.
Waouh. Wow.
Qui enchaîne là-dessus, les gars, maintenant? Qui a les
couilles la barotte, là, ouais, je ne sais plus parler, là.
Ouais, je préfère que tu mettes un X à la fin.
C'est fini. Je sais pas si t'as Ah, un truc qui tient
ouais, moi j'ai des idées. Ouais.
Dans un film.
Non, plutôt musique.
Plutôt musique, ouais.
Ichon.
Ichon.
Ah,
Ichon, qui est un artiste.
Ichon. Excellent.
Oui.
Excellent,
bah,
Ichon.
Qui me plaît depuis un moment, mais c'est vrai que. Qu'est-ce que bah la vie qu'il a sorti avec le Live Color Show comme
ah, bah ouais.
qui est super et qui est hyper enthousiasmant enfin
c'est pas si facile hein.
Ouais et je trouve que ce gars visuellement dans sa démarche enfin sa direction artistique visuelle clip photo et des vêtements pardon
ouais.
il est hyper enfin
il est très complet
ouais il est hyper complet il a quelque chose d'hyper comme on disait hyper authentique et puis tout ce qu'il fait me touche beaucoup et aussi une musique d'Alain Souchon qui s'appelle que ma sœur m'a fait découvrir Un terrain en pente qui parle de nos vies à tous et je le trouve vraiment magnifique il a sorti il y a 2 ans dans l'album je sais même plus 50s quelque chose vous irez chercher si vous êtes curieux mais donc voilà c'est les deux références musicales qui m'ont traversé l'esprit quand t'as dit ça
ouais bah écoute je soutiens à fond Ichon franchement j'ai adoré son Colors et je trouve super touchant aussi Alex
bon vous me prenez un peu dépourvu j'ai pas
t'as pas fait tes devoirs
j'ai pas fait mes devoirs bah si ça venait à chaud comme ça je dirais Herbie Hancock donc qui est un pianiste de jazz que j'aime beaucoup.
Récent, non?
Non, pas trop.
Attends, tu peux redire le nom?
Herbie Hancock.
Herbie Hancock.
Non, ouais, exact.
Ça m'a fait marrer parce que ça vient de parler de découverte.
Ah.
Non, mais ça peut être un truc que t'as kiffé.
C'est un ancien.
Mais je rigole, mais moi aussi, je connais pas, du coup, c'est un ancien.
Je découvre, c'est cool.
Et donc, il fait du piano et plutôt virtuose. Et j'ai redécouvert un de ses albums qui s'appelle Headhunters, qui est sorti dans les années 70. Et c'est vrai que c'est une chose qui pourrait même... J'ai l'impression qu'il pourrait pas sortir aujourd'hui. Donc, c'est un album qui est instrumental de A à Z, qui a 5 morceaux, qui font tous au moins 8-9 minutes. Et c'est du pur groove, pur funk. Et c'est vraiment un plaisir pour les oreilles. Donc... Mais je me demande si on pourra ressortir encore des albums comme ça aujourd'hui aussi libres, sans contraintes et pouvoir vendre surtout et pouvoir se faire un nom quoi.
Oui, on peut.
Compliqué.
Je pense, il y a plein d'artistes qui font des chansons d'une minute. Après, je sais pas si.
Bah après, en fait, ouais, parce que en ça, fait, ça, la
faut le format radio.
Moi, j'étais là, oui, on peut, mais ce que t'as rajouté à la fin, et être vendu et être commercialement
ouais,
très rentable et
ouais,
tout.
Je dis pas être vendu, mais enfin qu'on soit écouté tout simplement. Finalement, être
ouais.
écouté, c'est être vendu aussi
ça,
quoi.
Enfin,
c'est faire des streams.
C'est faire des streams, oui.
Ah ouais. Il y a des côtés négatifs, mais il y a un côté très positif au streaming et toutes ces nouvelles plateformes, c'est qu'il y a une popularisation pardon, des œuvres qui est absolument géniale. Quoi.
Ça a une portée plus large.
Après, ouais. C'est plus dur de créer dans le sens où pour les petits artistes qui émergent, les recettes sont moins. Bon.
Et je vais finir sur un petit kiff que je viens de découvrir et dont je t'ai parlé, Alex, pendant la pause. C'est le podcast du coup de Spotify qui s'appelle Coming Out. Que
celui
j'ai...
de Xavier ?
Bah, celui de... Bah, alors du coup, donc Coming Out, c'est un podcast qui raconte des histoires de coming out de personnes qui sont quand même un petit peu connues. Et il y en a deux qui m'ont particulièrement touchée. Donc il y a celui avec Xavier Dolan, que j'ai adoré. Et il y a aussi celui avec Aloïs Sauvage. Je sais pas si tu l'as écouté.
Ouais, j'ai pas écouté, mais je connais...
Moi, j'adore sa musique.
Ouais,
et elle me touche beaucoup. Et du coup, les deux épisodes... J'ai vraiment bingé ce podcast. Et c'est les deux épisodes que j'ai préférés, quoi. Je les ai trouvés super touchants. Justement, de nouveau, très authentiques. Très vrais. Je trouve que ça fait du bien. Et comme les filles qui font ce podcast le présentent au début, je trouve que c'est quand même super cool qu'il existe et qu'on puisse en parler, mais ça devrait pas exister parce que ça devrait pas être un truc sur lequel voilà, on doit s'extasier. Mais en tout cas, je le trouve très utile et j'espère qu'il va aider beaucoup de jeunes.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est trop une belle plateforme. Et... Après, il y a plein d'autres podcasts LGBT qui sont très cool. Il y a le podcast Queer aussi de Nouvelles Écoutes qui est vraiment chouette aussi. Donc voilà.
Et puis dans des années, on n'aura plus à en parler peut-être.
Ouais, on n'aura plus besoin, ce serait trop bien.
Avec un peu d'espoir.
On espère.
Alors, pour terminer, je voudrais déjà vous remercier à tous d'être venus ce soir et surtout toi, Alex, d'avoir accepté d'être un peu notre cobaye et d'avoir partagé un petit peu. T'as partagé un petit bout de toi avec nous et avec les auditeurs et les auditrices et du coup ça nous fait très plaisir. Alors merci beaucoup.
Merci à vous.
Et pour Seb et Alex, l'autre Alex, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Un Dernier pour la Route.